Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Bonjour, Philippe Vincent.
Alors, l'Allemagne qui a levé son feu rouge sur les léopards, les tanks, et on pourra finalement en envoyer à l'Ukraine.
Vrai. Ça vient juste d'arriver. On est occupé à parler. Que dis-tu?
Ça vient juste d'arriver, là.
Ouais, j'ai vu ça aussi passer. Ils étaient hésitants et on pourra peut-être en d'autres temps essayer de diagnostiquer pourquoi les Allemands hésitaient à envoyer leur quincaillerie lourde. Puis aujourd'hui, effectivement, c'est la nouvelle du jour. On est tous beaucoup occupés à parler de ces livraisons d'armes modernes, puis essentiellement des tanks, hein, les léopards allemands, mais aussi éventuellement bientôt les Abrams américains. Et ça, c'est du lourd, c'est compliqué à manipuler aussi, ça prend de la formation. Ça changera strictement rien au rapport de force dans l'Est pour les Ukrainiens dans l'Est du pays, à court terme ou à moyen terme, parce que ça va prendre du temps avant que soient entraînés les soldats ukrainiens pour manipuler ces nouveaux jouets. Et je pense que, pendant qu'on parle de tout ça, les vraies batailles sont peut-être en train de jouer dans les coulisses du pouvoir à Kiev. Les échanges, on l'imagine, sont fratricides dans les tranchées de l'administration.
Ben oui, j'ai vu ça.
Oui, c'est ça, j'allais dire, un peu corrompu peut-être. Hein?
Ben, en tout cas, il y a du ménage anticorruption qui se fait, ça a l'air.
Exactement. Est-ce qu'on pouvait s'en douter? Je pense que oui. En tout cas, donc, ça joue dur, certainement pas autant que sur le front de l'Est, mais proportionnellement, ça joue. Ça sent pas bon, en tout cas, dans les hautes instances à Kiev. Pour la première fois depuis le début de la guerre avec la Russie, il y a de graves accusations, donc, de corruption qui ébranle le gouvernement de M. Zelensky. Et ce n'était qu'une question de temps. L'Ukraine, j'en suis convaincu, tu le sais, a des aspirations démocratiques, mais l'administration du pays est encore marquée par des pratiques qui, elles, ne relèvent pas des meilleurs standards. Je ne sais pas si tu as regardé le classement de Transparency International qui s'intéresse justement au niveau de corruption dans les différents pays du monde. Je pense que le plus récent classement, c'est 2021. L'Ukraine était en 122e position sur 180, juste devant la Russie. Elle était au 130e rang. Alors, on est loin du peloton de tête en matière d'éthique. Une guerre, c'est toujours une sale affaire, tu me diras, mais c'est aussi une formidable occasion d'embrasser de grosses affaires. Depuis le mois de février dernier, la valse des milliards de l'Occident permet bien entendu de maintenir en vie le pays. Mais au passage, il y aurait comme beaucoup de bacon qui est partagé entre les amis du pouvoir. Ce n'est pas un secret et ce n'était pas un secret non plus. Il y a des militaires américains, je ne me rappelle pas si on en avait parlé, qui avaient sous couvert de l'anonymat souligné avec un peu d'anxiété qu'une partie des armes transférées aux forces ukrainiennes apparemment n'arrivait jamais jusqu'au front. Ça, c'était l'été dernier. Puis l'Ukraine, c'était bon de le rappeler, était une plaque quand même tournante importante du marché noir des armes. Ça, c'était avant la guerre. Est-ce qu'on peut penser que la vocation a beaucoup changé alors qu'il y a des livraisons qui arrivent de partout? Et je sais pas pour toi, moi, ça me rappelait, tu sais, pendant la guerre en Afghanistan, première version contre les Russes, les Stingers que la CIA avait livrés, ces missiles antiaériens qu'ils avaient livrés aux talibans, et qui, quelques années plus tard, se sont retournés contre les Américains. Il faut toujours faire attention quand tu donnes des armes, quand tu transfères des armes, tu sais jamais dans les mains de qui ça va retomber. Et chose certaine, le cauchemar, c'est toujours aussi la possibilité que des armes que tu transfères dans des conditions que tu penses optimales se retrouvent un jour entre les mains de terroristes et puis des Stingers. Je pense que la CIA a dû passer plus de temps à suivre les Stingers sur le marché noir qu'ils avaient donné aux talibans qui en ont passé à livrer la guerre par moment, parce qu'il suffit d'un ou deux de ces missiles qui se retrouvent entre les mains de terroristes. Et là, c'est l'aviation civile qui est très menacée. Alors, pour l'heure, on ne parle pas de détournement d'armement par le gouvernement de M. Zelensky, mais de corruption ordinaire, si tant est que ça existe. Pour les achats de fournitures à prix boosté, et ce qui permet ensuite la distribution de généreuses rétro-commissions aux donneurs d'ordre. Il y a plusieurs sous-ministres qui ont été forcés de démissionner, quelques gouverneurs régionaux. La purge arrive peu de temps aussi. C'est toujours intéressant de faire la ligne du temps. Après une visite discrète qu'aurait effectué le patron de la CIA à Kiev, peut-être pour suggérer à M. Zelensky de faire le ménage. Pour l'instant, en tout cas, le héros de l'Ukraine, l'homme de l'année, celui qui a été applaudi à tout rompre en décembre dernier au Congrès, est toujours justement l'homme providentiel pour l'OTAN, Washington, bien entendu l'Ukraine. Ceci étant dit, hier, un de ses plus proches collaborateurs, M. Timoshenko, a été limogé, pris la main dans le sac. Il roulait au volant de voitures de luxe. Il n'habitait pas dans un 3,5. Un train de vie qui est quand même surprenant pour un collaborateur du président d'un pays qui est ruiné et en guerre. Et là, c'est ma supposition, et tu pourras la retenir contre moi dans quelques semaines ou quelques mois si j'ai tort, mais moi je pense que ce n'est que le début d'une plus vaste opération qui va finir par ébranler l'acteur président.
Ah ouais.
Je pense, enfin, je ne serais pas surpris que son image de marque se fissure ou soit fissurée au cours des prochaines semaines. Pas surpris non plus que les Américains, peut-être, aient déjà un plan B pour le remplacer.
Ah ouais.
J'ai deux indices. Je te les partage. J'en avais peut-être aussi parlé. Tu m'excuses. Je pose souvent la question. C'est pas de la rhétorique parce que au fil de nos conversations, puis des fois j'écris des articles aussi. Moi, j'avais été extrêmement intrigué par un article de Thomas Friedman, qui est journaliste, commentateur, chroniqueur dans le New York Times, cet été, qui parlait de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan en disant « Faites attention les amis, c'est très fissible ce qui se passe là-bas, il faut pas faire d'erreur. » Puis entre deux paragraphes, il parlait de l'Ukraine comme par hasard en disant « Et je reviendrai là-dessus, mais plusieurs personnes à qui je parle, on peut entendre ici qu'ils me pissent dans l'oreille au sein de l'administration, sont pas des fans à tout rompre de M. Zelensky et ont de sérieux doutes sur la manière de mener les affaires. » Ce genre d'affaires n'arrive jamais par hasard. Parce que, tu sais, s'il y a quelqu'un capable d'entendre avant tout le monde les petites secousses, c'est un Thomas Friedman, c'est le sismographe officiel. Lui, il sait avant tout le monde comment les tectoniques vont se déplacer. Puis en général, c'est pour l'annoncer à ceux qui savent lire entre les lignes. Autre signe intéressant, il y a un blogueur, personnage influent en Ukraine, Oleksiy Arestovitch, ancien collaborateur du président. Et je m'excuse si ça a l'air technique, mais c'est un peu comme lire dans les feuilles d'été ces affaires-là. Donc, un ancien collaborateur du président, responsable, je parle de Zelensky, responsable des communications militaires, on peut lire ici propagande, qui est tombé en disgrâce depuis quelques semaines, quelques mois, pour ses critiques assez virulentes du régime en place à Kiev. Et il continue de bloguer. Il s'est permis de dire haut et fort, c'était la semaine dernière, qu'un édifice appartement, tu as certainement vu la nouvelle, qui a été la cible d'un missile dans une ville, je pense, de l'est du pays, qui a fait plusieurs morts, était le fait des Ukrainiens, pas des Russes. Hmm. Probablement en tentant d'intercepter un missile russe, mais c'est une rupture dans le ton officiel et on disait les Russes ciblent spécifiquement, sciemment des édifices civils et c'en était une des points. Je pense pas. Et que ça soit fondé, qui se permet de le dire est très intéressant. Il dénonce aussi, depuis quelques jours, le fait que des millions d'Ukrainiens russophones sont maltraités, sont indignement traités par le pouvoir, répète que les politiques de Zelensky sont donc aussi suicidaires parce que tu as une partie de la population ukrainienne qui pourrait se retourner contre lui. Il me dira, fantastique, c'est la preuve que l'Ukraine est le royaume de la liberté d'expression. Le problème, c'est que le nom de M. Arestovitch et celui de quelques autres empêcheurs de tourner en rond est sur une liste noire de gens qu'il faut éliminer. Avec, entre autres, son adresse civique, comme ça arrive souvent. Puis il y a d'autres troubles-fêtes que je te le dis à l'instant, qui étaient sur cette liste de commentateurs désagréables et qui aujourd'hui ne s'y trouvent plus, ces noms-là, pas parce qu'ils ont été biffés ou effacés, mais parce qu'ils sont morts. La politique en Ukraine, c'est plus violent que dans les coulisses de nos partis politiques ici. Les chicanes entre péquistes, en général, ça fait pas de bon.
En temps de guerre,
on est d'accord, c'est pas du tout la même chose.
Les enjeux sont plus profonds.
Ça nous force à poser une question. Est-ce qu'il est suicidaire, cet ancien conseiller de M. Zelensky et influent conseiller, ou il sait qu'il est protégé quelque part et donc peut-être qu'une campagne est amorcée pour discréditer le président ukrainien? À ce jour, il n'y avait pas beaucoup de voix dissonantes. comment peux-tu soutenir l'idée de continuer à critiquer comme si de rien n'était le président, alors que ton nom, celui de ta famille, se retrouve sur une liste de gens qui sont invités à se taire, sinon on invite les citoyens à faire en sorte qu'ils se taisent, s'ils ne sentent pas qu'il est protégé. Alors, clairement, moi je pense qu'il y a des gens puissants qui tirent quelque part les ficelles, ils sont certainement pas seuls en Ukraine. Alors, je peux me tromper, notre exercice du matin est...
Il est là pour
ébaucher des hypothèses.
Mais c'est gros, là, c'est de penser que les Américains seraient prêts ou réfléchissent à un plan B.
Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de ça. Peut-être qu'ils ne sont pas les seuls. En général, ils donnent le « la » aux forces de l'OTAN et à leurs alliés. Et non, je ne serais pas surpris qu'il y ait quelque part, très discrètement, en coulisses, beaucoup de gens influents qui se posent des questions sur le leadership de M. Zelensky, qui sont peut-être prêts à changer de capitaine, et aussi de stratégie. Est-ce que c'est pour ouvrir un front de négociation? Est-ce que c'est toutes sortes de signaux, hein? D'ailleurs, il faut toujours faire...
Mais là, c'est un peu mêlant, c'est ça. Il me semble qu'on se disait, ben, il y a peut-être une possibilité qu'on puisse bombarder la Crimée en même temps. Est-ce qu'on est je sais pas, la stratégie est difficile à lire, là.
C'est tout à fait le cas. Est-ce que c'est un bluff de dire qu'on pourrait s'intéresser à la Crimée pour mettre de la pression et dire qu'on va négocier? Mais en général, quand tous ces signaux arrivent, on pourrait se poser la question, et encore une fois, c'est pas dans une perspective paranoïaque, est-ce qu'il y a un lien à faire entre la barre accidentelle du ministre de l'Intérieur dans un crash d'hélicoptère il y a 2 semaines et de ses proches collaborateurs et la purge qui a lieu cette semaine? Est-ce que je fais un lien cause à effet? Je le fais pas. Je pense que, par contre, est-ce qu'on peut se poser la question? Oui, tu le disais toi-même. En période de guerre, ça joue dur. Il y a clairement quelque chose qui se passe en ce moment dans les tranchées politiques. Puis c'est drôle, on parle de tanks, on parle de toutes sortes d'affaires, puis très peu des règlements de compte politiques. Je pense que les deux sont certainement liés et qu'il faut ne pas regarder seulement sur le champ de bataille, mais aussi ailleurs, là où l'action se déroule.
De toute façon, ça va se finir en politique, cette guerre-là. Fait que c'est pour ça que c'est important de garder un œil sur la politique.
Exact. Et est-ce qu'il y a des pressions, comme je te dis, pour changer le coach ou le capitaine, puis peut-être de stratégie? Je termine là-dessus. On l'a souvent dit, ça j'en suis certain, il y a beaucoup de gens qui, dans les derniers mois, étaient impatients quand ils entendaient Zelensky faire pression, être tous azimuts, s'attaquer d'ailleurs publiquement à ceux qui, aux États-Unis et ailleurs, avaient des réserves sur la guerre en les menaçant. Il n'y avait jamais assez d'argent envoyé, jamais assez de matériel. Il se peut aussi que des gens aient perdu patience, mais plus profondément, je pense que dans la stratégie globale, celle qui dépasse le seul entendement de M. Zelensky de l'Ukraine, il y a des gens qui tirent les ficelles et qui peut-être sont prêts à changer de plan de match, à faire évoluer le plan de match. Et ça pourrait signifier que l'acteur fait de la place à un autre comédien.
À un autre pantin ou à un nouveau pantin.
Non, ça serait gros. Puis j'ai peut-être...
En tout cas, ce serait perçu comme ça. Ce serait perçu comme ça par les Russes.
possiblement. Et est-ce qu'il y a des négociations qui peuvent être aussi amorcées discrètement entre Russes et Américains? Ça se peut aussi. Toutes ces choses sont possibles. Chose certaine, en tout cas, je suis convaincu que ça manœuvre fort en coulisses.
Stéphane, bonne journée.
Ciao.